On aime faire quelque chose ici à la vie comblée. On aime faire une petite déclaration parce que nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu. On va déclarer au nom de Jésus, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil. Et je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, en parlant des maladies et en parlant des guérisons, on veut quand même voir quelque chose d'important dans la parole de Dieu. C'est la deuxième partie d'une série qu'on a commencée la semaine passée. Qu'est-ce que votre vie? Comment mener une vie qui compte pour Dieu? Et vous savez que, comme on a dit la semaine passée, on vit dans un monde qui est quand même fragile. Vous êtes d'accord avec moi? La vie est courte. Comparée à l'éternité, même si on vit sur la terre 100 ans, 100 ans est vite passé. À chaque jour, on se regarde dans le miroir, on dit, waouh, c'est vrai que le temps passe vite, n'est-ce pas? Il me semble que c'est hier que j'étais à l'école primaire, et je ne suis plus à l'école primaire. Hein? Et on voit de plus en plus, il me semble aussi que plus on avance dans l'âge, plus ça va vite, n'est-ce pas? Et je suis un homme qui est très, très jeune, ok? Moi, je n'ai que 42 ans, donc je suis un très jeune homme, mais... C'est drôle parce que j'avais quoi donc, ma mère s'est remariée quand j'avais 15 ans, donc elle avait 41 ans, je pense, à l'époque, et je pensais que, mais ils sont tellement vieux, hein? Mais ils se marient, et voilà, mais laisse-moi vous dire, qu'est-ce que j'étais en train de penser? 41, c'est rien, c'est un bébé, vous êtes d'accord avec moi? Mais, si on peut regarder, hein, j'ai préparé quelques images la semaine passée parce qu'on a eu quand même une semaine mouvementée avec certains personnages célèbres qui sont décédés. Avec quoi? 50 ans. Michael Jackson, parti. Et la même journée, on avait aussi un autre personnage, Farrah Fawcett. Combien de vous rappelez de ces deux personnes? Presque tout le monde a vu ces images. Mais ces personnes étaient là et puis le lendemain, ils sont tous les deux partis. Et assez jeune en plus, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi le titre du message, « Qu'est-ce que votre vie? » En fait, c'est basé sur un verset de Jacques, chapitre 4, verset 13. « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville où nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, continue, car qu'est-ce que votre vie? » On va le dire ensemble, « Qu'est-ce que votre vie? » Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Donc, on a vu la semaine passée que notre vie est comme une vapeur. On est là et on est disparu. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est que on peut être déprimé par cette pensée. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine parce qu'on a dit que la vapeur peut être gaspillée. Juste relâché dans l'air et pfou, c'est disparu. Ou on peut capturer la vapeur, comme avec on voit ça avec les trains ou même certains bateaux. On peut prendre la vapeur qui est créée par l'eau qui est bouillante et on peut saisir l'énergie qui se trouve dans la vapeur et on peut propulser quelque chose, un moteur. On peut propulser même des personnes vers une destination particulière, n'est-ce pas? Et on a dit, c'est la même chose avec notre vie. Même si on ne vit que 70, 80, 90 ou même 100 ans sur la terre, c'est une vapeur. Mais qu'est-ce qu'on veut, c'est de saisir cette vapeur et faire en sorte que notre vie va faire propulser le plan de Dieu et la volonté de Dieu dans la bonne direction, n'est-ce pas? Je veux que ma vie compte pour Dieu. Et vous? Je ne veux pas vivre... mourir et que tout le monde oublie que j'étais là. La Bible dit que toute chair est comme l'herbe et sa gloire est comme la fleur des champs. L'herbe fait quoi? Oui, pousse, mais sèche. Et la fleur fait quoi? Va flétrir. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est ça que dit les Écritures. Et moi, je veux être parmi ceux qui demeurent éternellement. Amen. Donc, on voit cela et on se pose la question, qu'est-ce que ma vie? Est-ce que ma vie va compter pour Dieu? Et c'est une très bonne question. Un jour, on va tous comparaître devant le tribunal de Christ pour rendre compte à Dieu pour notre vie, pour qu'est-ce qu'on a fait étant dans notre corps, n'est-ce pas? Et moi, je veux avoir confiance cette journée-là. Je veux pas avoir honte quand Jésus va venir me chercher. Je veux savoir que j'ai fait sa volonté et que ma vie n'a pas été gaspillée. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, on va continuer un peu dans la même veine, dans la même direction, et on va poser quelques autres questions. On voit trop souvent, même dans les églises et même parmi les personnes qui se disent chrétiens, une manque de compréhension concernant la vie et la signification de la vie et notre raison d'être. On a tellement de personnes qui sont préoccupées par des choses de ce monde où ils ont une certaine idée dans la tête que « Oui, mais je suis chrétien, je vais à l'église, je lis ma Bible, je fais des prières, je suis une bonne personne. » Mais posez-vous vraiment la question. Est-ce que vous êtes vraiment en train de vivre d'une manière qui compte pour Dieu? Et il y a un verset qu'on veut étudier un peu ce matin, on veut voir. Ça se trouve dans les évangiles, dans l'évangile de Luc, chapitre 18. C'est Jésus qui parle et Jésus dit la parabole suivante. À l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et méprisaient les autres. Savez-vous qu'il y a des personnes qui pensent, oh, « Mais moi, je suis correct. Oh, de toute façon, je suis moins pire que les autres, n'est-ce pas? » Combien de chrétiens ont cette attitude? On parle aujourd'hui d'une vie qui compte pour Dieu. Et qu'est-ce qu'on va voir? C'est que la seule manière de mener une vie qui compte pour Dieu, c'est de vivre pour Jésus. Et c'est trop facile de se comparer les uns avec les autres en pensant que, mais écoute, moi je suis un bon chrétien parce que, au moins je suis pas comme les autres pécheurs de ce monde. Je viens à l'église. Je prie. Je ne sacre pas. Je fais ceci, je fais cela. Mais regarde bien qu'est-ce que Jésus a dit. Verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Oh, je suis content, je ne suis pas comme le reste des hommes. Posez-vous la question en tant que chrétien, est-ce que vous avez cette attitude? Des fois, « Oh Seigneur, c'est un peu une justification de soi-même, n'est-ce pas? » Je suis, et on va continuer. « Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, mauvais et adultères. » Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Donc lui, il pointe les doigts à quelqu'un d'à côté de lui. Waouh, quelle audace, quelle arrogance. Pourtant, j'ai peur que des fois dans l'église, on a ce même genre d'attitude. Et regarde bien, on continue. Je jeûne deux jours par semaine et je te donne le dixième de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait, « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Moi, je veux vivre une vie qui compte pour Dieu. Et vous? Et la seule façon de vivre une vie qui compte pour Dieu, comme on va voir, c'est de vivre pour Jésus. Jésus a dit quelque chose en Apocalypse chapitre 3. Il a adressé ses paroles aux chrétiens. Il a dit, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bruyant. Puisses-tu être froid ou bouillant? » Savez-vous que pour produire de la vapeur même qui va propulser un train, il faut que l'eau soit assez chaude, n'est-ce pas? Et il faut que votre vie soit en feu pour Dieu aussi. Donc, on continue. Il dit, « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai pas besoin de rien, et parce que tu ne sais pas ce que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » N'est-ce pas intéressant? Regarde encore verset 17. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et en collure pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit des personnes qui ont cette assurance en soi-même que, bon, tout va bien, c'est correct, je suis riche. Et combien de chrétiens sont comme ça? Mais moi, je vais à l'église le dimanche. Des fois, même le mercredi soir, je suis vraiment quelqu'un, n'est-ce pas? Je vais à l'église, je ne sac pas, je n'ai pas volé la banque. Donc, je suis vraiment quelqu'un. Mais qu'est-ce que Jésus demande? C'est plus que ça, vous êtes d'accord? Quand on pense à la grandeur de Dieu, quand on pense que Dieu est tellement puissant, et quand on pense à la magnificence de sa création, de l'univers entier, je regardais les images de notre galaxie, et on va vous montrer ça tantôt, j'ai une photo que je vais vous montrer tantôt, mais c'est quelque chose de penser que ce Dieu qui est si grand et si glorieux, qu'on peut voyager à la vitesse de la lumière pendant des milliers et des millions d'années, et on n'est même pas à peine commencé à découvrir son univers. Que ce Dieu est si grand, si saint, il a envoyé son propre Fils pour venir mourir à notre place. Il a pris nos péchés sur lui-même, il a été crucifié, enterré, ressuscité. Et c'est quoi notre réponse? Oh, mais Seigneur, je vais vraiment te rendre service, je vais aller à l'église deux fois par semaine. Peut-être, je suis vraiment bon chrétien, je vais donner une dixième de mon salaire. Peut-être, je vais arrêter de sacrer, arrêter de consommer et être un bon gars. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut quoi? Il veut une réponse qui est un peu plus extravagante que cela. Vous êtes d'accord? Il veut toute notre vie, toute notre être. Il veut qu'on tombe dans ses bras en disant, Seigneur, toute ma vie t'appartient, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, toutes les autres choses ne comptent pour rien. Amen? Ça me fait penser un peu à ceci. Quelqu'un a faim? Quelqu'un a faim? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les Doritos? Ah, c'est bon, hein? Mais c'est bon, c'est la bonne bouffe, ça. Comment est-ce que je sais? Parce que, écoute, zéro gras trans. Ça, c'est des bons chips, hein? Savez-vous, on pourrait presque dire que c'est les chips de santé. Parce qu'il n'y a pas... Mais regarde! Il n'y a pas de gras trans dans ces chips, n'est-ce pas? Wouh! Je suis allé dans une conférence cette semaine en Minnesota, et quand je suis arrivé à l'aéroport, il y avait la femme qui prenait les valises. Elle disait à un de ses collègues, mais elle mangeait les chips. Mais tiens, prends. Ça, c'est bon pour ces chips-là sont bons pour la santé. Regarde, ils sont cuits au four. Elle a dit zéro gras trans. Mais parce qu'il y a ces zéro gras trans, c'est bon pour la santé. Ah oui, c'est ça. Mais je pense qu'en quelque part, on a des chrétiens qui sont un peu comme des croustilles. Zéro sacre dans ma vie. Au moins, je vais à l'église. Je m'assois deux fois par semaine. J'endure et je supporte la prédication du pasteur pendant des fois, deux fois par semaine. Mais posez-vous la question, est-ce qu'on peut dire parce que c'est zéro gras trans que c'est une nourriture de santé? Je pense que non, hein. En fait, j'ai découvert quelque chose c'était quelqu'un à Montréal. Qu'est-ce que j'ai fait avec cela? Oh, je l'ai laissé dans mon... C'est pas grave. Je m'excuse. C'est dans mon téléphone. Je pense. Mais j'avais des feuilles mais je vais le trouver. Deux secondes. Voilà. Donc, j'ai l'article ici. Et c'est intéressant. Des croustilles santé, question. Vous avez peut-être déjà acheté un sac de chips dont l'emballage mentionné fuite au four ou faible en gras. La conscience plus tranquille en pensant consommer un produit santé, qu'en est-il vraiment? Et donc, c'est tout un article qu'ils ont fait à propos de ces chips de santé. Et comme ils ont dit, la caractéristique des chips, c'est leur côté irrésistible. Ça, c'est vrai, n'est-ce pas? Moi, je sais, j'ai une stratégie. Pour régler la consommation des chips, j'ouvre pas le sac. Ouais, bref, c'est ça. Je les achète pas, mais si jamais j'en mange un, surtout les Doritos. Moi, je sais pas, mais est-ce que c'est possible de manger un Dorito? Je pense que non. De toute façon, une fois que c'est mangé, votre haleine est faite pour la journée, donc vaut mieux en manger plus, donc, n'est-ce pas? Mais regarde bien, il dit, quand le sac est ouvert, c'est la catastrophe. Il faut le vider. C'est ainsi que Marie Marquis, nutritionniste à l'Université de Montréal, qualifie l'appétit de nombreux amateurs de crustés. Ceux-ci sont de plus en plus nombreux. La consommation de chips a doublé depuis 10 ans au Canada. Hein, c'est quelque chose, hein? Et puis, ça continue, c'est long, article, mais je voulais quand même souligner quelques petites choses. Je trouve ça intéressant parce que je vois un parallèle. Comme ils disent, mais peu importe la méthode de cuisson, une chips est toujours grasse, salé et hautement calorique. Voilà que pour nous, la vente, on nous la propose en version santé ou d'allure santé réduite en sel et en gras. L'offre est alléchante, mais qu'en pensez, je connais personne qui en consomme pour sa santé. Ça, c'est quelqu'un de l'Université de Laval. Donc, il y avait d'autres choses. Et, j'avais tout ça marqué sur ma feuille, mais je pense que je l'ai laissé à mon bureau. Voilà. Mais il y avait d'autres choses intéressantes là-dessus. Ils ont dit, encore une fois, les chips cuites au four se démarquent des autres avec l'absence de gras saturé, mais ils ont dit qu'il y a encore de gras, encore du sel. Et puis, en plus, si on regarde, bref, chips de santé n'existent pas. Certains sont moins gras, d'autres moins salés, mais toutes sont caloriques. À la ligne d'arrivée, on ne trouve pas de véritables gagnants. C'est un aliment un peu délicat, un aliment plaisir, n'est-ce pas? Mais, pourquoi je parle de chips ce matin à l'église? Pourquoi des croustilles? Encore, pensez-vous, est-ce que vous êtes une croustille ou un chrétien? Bonne question. Croustille ou chrétien? Un chrétien, c'est quoi? En fait, le mot chrétien, c'était quelque chose que le monde a inventé. C'est pas les croyants qui commençaient à s'appeler les chrétiens. C'est les non-croyants qui commençaient à regarder l'Église et ils ont dit, voilà, ces personnes, ils agissent comme Jésus. C'est comme c'est Jésus qui est là. En fait, il faut que je fasse attention, le mot chrétien veut dire une petite version de Christ. Ça, c'est mieux, n'est-ce pas? Une petite version de Christ. J'ai fait l'erreur une fois de dire autre chose. Et puis, on avait un jeune homme en visite qui a demandé à sa grand-maman, « Grand-maman, pourquoi est-ce que le pasteur a sacré? » Non, une petite version de Christ. Mais c'est les non-croyants, les gens qui ne croyaient même pas en Jésus, qui observaient les croyants, qui disaient, « Wow, ils parlent comme Jésus, ils vivent comme Jésus, ils agissent comme Jésus. » Quand on les voit, on pense à Jésus. Donc, c'est là, dans l'église d'Antioche, que les croyants ont été appelés pour la première fois les chrétiens, pas des croustilles. Et je pense que c'est important parce que on a besoin de se poser la question. Est-ce que c'est suffisant de dire, moi j'ai zéro grand prince dans ma vie spirituelle, c'est-à-dire qu'au moins je suis mieux que les pécheurs, au moins je vais à l'église, au moins je ne sacre pas ou je commets pas des meurtres. Est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Ou est-ce que la vie chrétienne, c'est de se donner à 100% à Jésus-Christ et de prendre sa croix, de le suivre de toute sa vie, de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a pour le restant de notre jour, de nos jours? Amen? Il faut regarder le sac et voir, est-ce qu'il y a d'autres choses là-dedans? Ouais, mais quels sont les ingrédients? Il y a toutes sortes de choses que je ne peux même pas prononcer, hein? c'est plutôt comme une leçon de chimie, je dirais. Mais je ne veux pas gaspiller les chips pour... Est-ce qu'il y a des gens qui veulent les avoir? Mes enfants ont déjà demandé 4 fois, « Papa, qu'est-ce que tu fais avec ça aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais avec ça aujourd'hui? » Est-ce que vous êtes une croustille ou un chrétien? Pensez-vous et posez-vous la question. Il y a une autre chose, si on continue notre message, les éléments essentiels d'une vie qui compte pour Dieu. Si on regarde en arrière de n'importe quel produit de nourriture, il y a toujours une liste des ingrédients, il y a toujours aussi une liste de valeurs. Là, on se vante parce que c'est 0 gras 13, mais si on regarde vitamine A, vitamine C, combien? 0%. Vitamine C, 0%. Il y a pas mal de zéros là-dedans. Ah, mais il y a quand même un peu de fer. Ouh, ça vaut la peine, hein? 4%. Ouais, je ne veux même pas parler de... du sel. Je ne parle pas de ça. Mais on a besoin de regarder, je pense, notre vie. Peut-être on doit sonder notre cœur et dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi? Je peux me vanter en disant, je ne sers plus, ou je ne consomme plus, ou je ne fais plus ça, ou je vais à l'église, mais est-ce que mon cœur est entièrement à toi, Seigneur Jésus? Et c'est pourquoi je veux regarder les éléments essentiels d'une vie qui compte pour Dieu. Et la première chose qu'on va faire, on va regarder un verset qui va nous montrer 4 choses. La première chose en général, c'est l'ingrédient essentiel, mais c'est en Galates chapitre 5, verset 4. On va terminer aujourd'hui avec ceci. Vous qui cherchez à être reconnus justes aux yeux de Dieu par la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous êtes privés de la grâce de Dieu. Quant à nous, nous mettons notre espoir en Dieu, qui nous rendra justes à ses yeux. C'est ce que nous attendons par la puissance du Saint-Esprit qui agit à travers notre foi. Car pour celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Soulignez cette phrase, n'a pas d'importance. Savez-vous qu'il y avait un groupe de personnes à l'époque, quand Paul a écrit cela, qui commençaient à mettre leur confiance dans le fait qu'ils ont été circoncis, qu'ils suivaient les règlements de la loi de Moïse. Ils ont suivi à la lettre la loi. Et c'est pourquoi ils pouvaient se comparer avec les autres. Mais moi, je suis circoncis. Moi, j'ai découpé des choses dans ma vie. Eux autres, ils ne sont pas comme moi. Moi, j'ai quelque chose qui va me distinguer. Mais qu'est-ce qu'ils avaient pour les distinguer? Une coupure physique? Est-ce que ça, c'était assez pour vraiment nous qualifier, être un enfant de Dieu et être même appelé un chrétien? Une petite version de Jésus-Christ lui-même? Je pense que non. Et c'est pourquoi il dit, c'est pas ça qui a d'importance. Ce qui importe, tout le monde dit ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Donc la première chose qu'on voit dans ce verset, si on veut une vie qui compte pour Dieu, assurez que Jésus-Christ est à la base de tout ce que vous faites et de tout ce que vous êtes. Savez-vous, c'est comment encore? Il y a certaines céréales, si on va à l'épicerie, si je laisserais mes enfants choisir les céréales, il y a certains ans que ma mère m'a jamais laissé acheter. Mais pourquoi? On voit encore à la télévision, les pubs, ils vont parler de « Oh, que c'est vraiment un produit de santé », sauf qu'on regarde la boîte et c'est quoi le premier ingrédient? Souvent, sucre. La base de ce aliment, de cette nourriture, c'est le sucre. C'est même pas la farine, c'est même pas les avoines, c'est, première chose, sucre. Mais posez-vous la question, c'est quoi la première chose, c'est quoi le premier ingrédient dans votre vie? C'est quoi l'ingrédient qui remplit votre vie? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Ou est-ce que Jésus fait partie de votre vie? Savez-vous, il y a une grande différence. Et c'est comme, des fois, on voit une fois, j'ai regardé... une boîte, il y avait des gaufres au bleuet. Sauf que je cherchais dans les ingrédients, il n'y avait pas de bleuet. Hein? Oui, mais il y avait des petites flocons de quelque chose qui était bleu, foncé, mais c'était une imitation. Mais on ne veut pas d'imitation dans notre vie. On veut la vraie chose, n'est-ce pas? Et on veut être rempli de la personne de Jésus-Christ. On veut que Jésus soit la base. On veut qu'il soit l'ingrédient principal. On veut qu'il soit tout dans le fond de notre vie, n'est-ce pas? Philippiens chapitre 1, verset 21, Paul a dit, « Car le Christ est ma vie. » Est-ce que vous êtes capable de dire aujourd'hui que Jésus-Christ est ma vie ou est-ce qu'il fait partie de votre vie? Est-ce que vous êtes... Franchement, il y a une différence entre quelqu'un qui dit « Christ est ma vie » et quelqu'un qui dit « Mais moi, je suis un homme, je suis Québécois, je suis Drummondvillois, je suis... » Je ne sais pas, vous pouvez nommer votre préférence politique. Vous pouvez dire « Je suis athlète » ou « Je suis sportif » et « Je suis chrétien ». Il y a beaucoup de chrétiens qui remplissent les églises, c'est vraiment ça. Je suis Canadien, je suis Québécois, je suis, comme je dis, toutes ces choses. Et en plus, je vais ajouter à la fin de la liste, je suis chrétien, je vais à l'église une fois par semaine, zéro grand prince. Je suis un bon chrétien. Posons-nous la question. Moi, je me pose la question. Je ne parle pas d'une assurance de votre salut aujourd'hui, ce n'est pas ça. Je parle d'une assurance que vous vivez à 100% pour Dieu. Mais, laissez-moi vous dire, si vous ne vivez pas à 100% pour Dieu, peut-être on a besoin de se poser certaines questions aussi. Amen. Être chrétien, ce n'est pas une question de venir à l'église. Être chrétien, c'est d'avoir Christ au centre de notre vie. Colossiens 1:16, c'est par lui que Dieu a tout créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé, comment? Par lui et pour lui. Savez-vous que Jésus-Christ est le Créateur? Tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui. C'est-à-dire que tout ce que je suis a été créé par lui et pour lui. Ma vie, ma destinée, ma raison d'être. Regardons l'image que j'ai ici. Ça, c'est notre... C'est quoi? C'est la Voie lactée. Et je ne sais pas si vous êtes capable de voir, il y a une petite place ici, où c'est marqué en anglais « sun » ou « soleil ». Et vous savez que le soleil est de beaucoup plus grand que la planète Terre. Notre petite planète se trouve quelque part au milieu, juste aux extrémités de cette galaxie. Et ça, c'est juste une galaxie parmi des millions de galaxies. Et celui qui a créé tout cela, il vous demande votre vie. C'est quoi notre réponse? Oh Seigneur, je vais te rendre service. Je vais aller à l'église. Je suis vraiment quelqu'un, hein? Deux fois de cette semaine. Je vais donner 10% de mon revenu à ce papier. Celui qui a tout créé, celui qui était, qui est, qui va venir, le plus grand, qui nous aime. Vous savez, il est tellement en amour avec nous. Il est passionné pour nous. Ce Dieu si puissant, ce Dieu redoutable, il est amour. Et il vous invite à vivre pour lui. Regardons l'autre verset que je partage souvent ici, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Et pourquoi est-il mort pour tous? N'est-ce pas incroyable de penser que celui qui a créé tout cela s'est fait chair et qu'il est mort pour nous? Et pourquoi est-il mort pour tous? Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener selon leur gré une petite vie égoïste. Qu'ils arrêtent d'être les crustis. Qu'ils n'ont pas vraiment de substance, pas vraiment de quelque chose de vrai à l'intérieur, mais qu'ils sont remplis de la seule personne qui peut vraiment compter. que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener selon leur gré une petite vie égoïste, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et fut ressuscité pour leur salut. Laisse-moi vous poser la question aujourd'hui. Pour qui est-ce que vous vivez? Pour qui est-ce que je vis aujourd'hui? Est-ce que je vis pour moi-même et je demande et je me sers de Dieu comme une génie? Je vais frotter la bouteille de prière. Oh Seigneur, cette semaine j'ai besoin de ça, 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 ça. Merci. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi. J'ai des projets. J'ai des choses que je veux. Je. Savez-vous quoi? Avez-vous remarqué? On a montré la voie lactée. Vous n'êtes pas le centre de l'univers et moi non plus. Je sais que c'est une grande révélation que mon nombril n'est pas le centre de l'univers. Dieu est le centre de l'univers. Et on a besoin de vivre pour lui. Pas une petite vie égoïste, mais une vie pour sa gloire. Amen. Ça, c'est la première chose. Il faut que Jésus-Christ soit à la base. Puis après cela, si on veut regarder et examiner notre vie, comme on examine la boîte d'une nourriture, d'un aliment, on doit voir, est-ce qu'il y a des vitamines, est-ce qu'il y a des choses de ma vie qui comptent pour quelque chose? Et je pense qu'on a au moins 3 vitamines essentielles qu'on a besoin d'avoir dans la vie chrétienne, si on ne veut pas être les crucis. Premièrement, c'est la vitamine E. C'est-à-dire, soyez constamment remplis de l'esprit. On a lu cela dans ce verset. On a vu que nous attendons par la puissance du Saint-Esprit qui agit à travers notre foi. Savez-vous que sans la puissance de l'Esprit Saint, on ne peut rien faire qui compte pour Dieu? Si vous essayez de vivre de votre propre force, vous allez être déçu. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon Esprit de l'Éternel des armées. C'est pourquoi Éphésiens 5, 18 dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire, quoi? Rempli de l'Esprit. Moi, je veux avoir une vie qui compte pour Dieu. Et je sais que dans ma propre force, je ne suis pas capable. Ma vie va être bientôt passée. Je suis une vapeur qui va apparaître et puis qui va disparaître. Je veux capturer cette vapeur. Je veux que ma vie soit capable de propulser le plan de Dieu dans la bonne direction, dans le bon sens. Notre vitamine qu'on a besoin d'avoir dans notre vie spirituelle, c'est la vitamine F. Vous savez que ça existe, la vitamine F? C'est la vitamine de la foi. Faites tout ce que vous faites par la foi. Il y a un verset ici, et encore, tout cela s'est tiré de Galates 5, 4. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bonne question que j'ai à vous poser. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie aujourd'hui? Regardez-moi dans les yeux. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie aujourd'hui? Que si vous arrêterez de croire en Dieu, OK? Est-ce que ça changerait quelque chose dans votre vie? Ou est-ce que vous êtes en train de mener une vie d'une telle manière que, Seigneur, je t'ai fait confiance. Et si tu n'existes pas, et si tu n'exauces pas ma prière, et si tu ne fais pas une intervention, je suis fait. Ou est-ce que votre vie est trop confortable? Dans le sens que vous n'avez pas vraiment besoin de la foi, vous avez en chèque à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Ou si ça ne marche pas, on a le gouvernement. J'ai tant de chômage. Donc, pas vraiment besoin de foi. Pas besoin de foi parce que j'ai tout est planifié, tout est calculé et j'ai plan A, plan B et plan C. Ou est-ce que vous êtes en train de vivre d'une telle manière que Seigneur, si tu n'existes pas, ma vie n'a aucun sens. Est-ce que vous me suivez un peu ce matin? Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que Dieu veut. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je ne parle pas de la folie. Je ne dis pas que vous devrez faire des choses stupides. La foi est commence là où la volonté de Dieu est connue. Et si vous savez que Dieu vous demande à faire quelque chose et vous le faites par obéissance, en sachant, OK, Seigneur, savez-vous que Dieu aime vous mettre dans une situation, dans les situations où il faut qu'il agisse pour que ça marche? Et si vous ne vous trouvez jamais dans une situation où il faut que ça marche, où il faut que Dieu agisse, je me pose la question, est-ce que vous vivez vraiment par la foi? Trop facile de dire, oh oui, j'ai confiance en Dieu, mais j'ai mon plan. Abraham avait tout. Il avait son pays, sa famille. Dieu lui a demandé de partir et d'aller où? Il ne savait même pas où. Mais par obéissance, il est parti. On voit en Hébreux chapitre 11 toutes les personnes qui étaient capables de dire non à ceux qui pouvaient voir avec les yeux, afin de dire oui à ceux qui ne pouvaient pas voir. Il y en a qui ont refusé de jouir des plaisirs du péché pour un moment, parce qu'ils avaient les yeux fixés sur une autre ville, une ville céleste. Ils croyaient vraiment que ça existe. Il savait que, bon, même si je n'ai pas ça là, dans cette vie, je sais que dans la prochaine, je vais l'avoir. Une véritable foi. Et Dieu est à la recherche des hommes et des femmes de la foi. En fait, Jésus a dit, quand le Fils de l'homme revient, est-ce qu'il trouvera de la foi sur la terre? Quelques autres versets concernant la foi, continuons. Prochaine diapo. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Est-ce que vous êtes absolument certain? Prochaine. Et tout acte qui n'est pas fondé sur la foi est pause. Réfléchissez. Pas moi qui a inventé cette phrase. C'est tiré directement de la Bible, Romains chapitre 14, 23. Tout acte qui n'est pas fondé sur la foi est quoi? Oui, mais j'ai zéro grâce trans. OK, c'est bon. Mais, comme le prochain verset dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Je pense que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ma vie, et je crois qu'il veut faire quelque chose dans cette église, et je crois qu'il veut faire quelque chose dans toute sa famille, partout dans la terre, sur la terre, dans le monde aujourd'hui. Il veut qu'on se réveille. Il ne veut plus qu'on joue à l'église. Il veut que ça soit vrai. Savez-vous que quand vous louez le Seigneur, on vient, on tape les mains, on chante, croyez-vous vraiment que celui qui est invisible vous voit? Croyez-vous vraiment qu'il reçoit notre louange? Quand vous prenez le temps de prier et vous dites, Seigneur, merci pour cette nourriture. Merci, Seigneur, que cette nourriture est sanctifiée par la parole de Dieu et par la prière. Merci que tu bénis mon pain. Merci que tu bénis mon eau. Merci que tu éloignes de moi la maladie. Croyez-vous vraiment à ce que vous dites? Ou est-ce que c'est juste comme un petit conte de fait? Mary had a little lamb, her fleece was white as snow. Moi, quand j'étais jeune, je priais. Même avant d'être sauvé, mes parents n'étaient même pas sauvés. God is good, God is great, let us thank Him for this food. Food, amen. Je savais même pas ce que je disais. Mais on le disait. On prenait le temps de le dire. Mais ce n'était pas par la foi. Donc, ça, c'est le vitamine F. Et puis, finalement, ce n'est pas la dernière vitamine, vous savez, mais ce sont trois choses qu'on trouve dans ce verset de Galates, chapitre 5. Vitamine F, E, c'est l'esprit. Vitamine F, c'est la foi. Et puis, vitamine A, que tout ce que vous faites soit motivé par l'amour. On a vu cela. Ce qui importe, tout le monde dit, ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Ma foi doit agir par l'amour. Donc, la clé aujourd'hui, c'est pas d'essayer de votre propre force être encore un bon chrétien. Le truc, c'est tout simplement de tomber en amour avec Jésus. Mais de vraiment tomber en amour avec lui. Ça serait trop facile pour moi de dire à ma femme, « Oh chérie, tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime. » Mais ça ne me tente pas de passer du temps avec toi. J'ai autre chose. Hein, j'aimerais mieux aller à la pêche. Ça fait des mois, on ne s'est pas vu, mais tu saches que je t'aime, pour vrai. Pour vrai, je t'aime. Mais si je lui dis jamais je t'aime, si je passe jamais du temps avec elle, si je n'investis pas dans ma relation, est-ce que je suis en train de lui montrer que je l'aime? Posez-vous la question. Est-ce que vous aimez Jésus? C'est quoi la dernière chose que vous avez investi dans votre relation avec Jésus? Zéro grand prince. Je ne sac plus. Je vais à l'église. OK, mais c'est ça qu'il veut. Ou est-ce qu'il veut que, à tous les jours, lundi matin, quand tu te réveilles, que tu penses à lui, « Seigneur, je t'aime. » Encore, ce n'est pas une chose d'être légaliste ou suivre tous les règlements bien comme il faut. C'est juste une question d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ce que tu as, de l'aimer, d'être en amour, d'être passionné pour celui qui t'a créé. Celui par qui est toute chose et celui pour qui est toute chose. D'être en amour avec lui. C'est quoi le plus grand commandement? Aimer Dieu et ensuite, aimer ton prochain. Ça, c'est le vitamine A. On sait que dans le naturel, la vitamine A aide avec quoi? La vision, n'est-ce pas? Il y en a qui n'ont pas de vision pour leur vie. Ils tournent en rond, ils savent pas, c'est métro, boulot, dodo, et c'est quoi le sens de la vie? C'est quoi ma raison d'être? Voulez-vous avoir une raison d'être, une vision pour votre vie? Tombez en amour avec Dieu et commencez à aimer les autres et vous allez avoir une vision pour votre vie. Vous allez retrouver une énergie pour votre vie. Et je suis convaincu. Continuons. On va regarder deux versets pour terminer là. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, si je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer les montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas quoi? D'amour. Cela ne me sert à rien. Alléluia. Mon cœur est convaincu. Je regarde et je lis l'Évangile et je lis les paroles de Jésus et je vois qu'est-ce qu'il nous appelle à faire. De l'aimer plus que tout. En fait, Jésus a dit, si tu aimes ton père, si tu aimes ta mère, si tu aimes les autres plus que tu m'aimes, tu n'es pas digne de moi. J'invente pas ces choses. Je parle de la vraie vie chrétienne. Posons-nous la question aujourd'hui. Qu'est-ce qui est dans le sac? Pas qu'est-ce qui n'est pas dans le sac. Pas de gras trans, tant mieux. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a du substance? Est-ce que Christ est le centre de la vie? Est-ce que le Saint-Esprit remplit tous les aspects de ma vie? Est-ce que la foi est la force en arrière de toutes mes pensées, mes actions? Et est-ce que l'amour est la motivation de tout ce que je fais dans la vie? Si j'aime Dieu et j'aime les autres, ça va bien aller. On continue avec ce dernier verset. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et tout ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc quoi? L'accomplissement de la loi. Alléluia. Aujourd'hui, posez-vous la question, est-ce que Christ est vraiment au centre de votre vie? Est-ce que le Saint-Esprit a infusé chaque partie de votre existence? Est-ce que vous faites tout ce que vous faites par la foi, motivé par l'amour? En amour pour Dieu et en amour pour les autres. Ça, c'est qu'est-ce qui va faire en sorte que notre vie va compter pour Dieu. On va se lever debout, on va prier. Seigneur, merci. Alléluia. Christi ou chrétien? Ah oui, ça aussi. Combien de vous, vous voulez être des vrais chrétiens et pas juste des crucifix? Il y a 5 personnes ici, c'est bon. C'est un bon début. Moi, je suis convaincu, sans Jésus, je ne peux rien faire. Et qu'est-ce qui est vraiment le fun quand on parle de toutes ces choses? C'est que la parole de Dieu dit qu'il n'y a personne qui cherche Dieu. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Si on le cherche, c'est parce que il nous a cherché en premier. C'est son Esprit Saint qui nous attire. C'est-à-dire que, en fait, Philippiens chapitre 2 dit que c'est Dieu qui produit en vous à la fois le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est-à-dire que si tu as le moindre étincelle du désir de suivre Dieu, ça prouve que Dieu est à l'œuvre dans votre cœur. Ça, c'est pas naturel. L'homme naturel, un homme qui est infecté par le péché, il ne veut pas Dieu. Il ne veut pas servir Dieu. Il ne veut pas faire plaisir à lui. Donc, mais si vous avez le moindre désir, ça prouve que Dieu est là, Dieu vous aime et il vous attire. Encore, la question aujourd'hui, ce n'est pas d'être attiré vers une église particulière ou une dénomination, une confession, mais la question, c'est d'être attiré à Jésus, de tomber en amour avec le Créateur de l'univers, d'assurer que Jésus est au centre de votre vie, que le Saint-Esprit puisse avoir libre cours dans votre vie, que vous agissiez par la foi et l'amour. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à sonder votre cœur, à vous approcher de lui en disant, « Seigneur, je veux t'aimer plus. Je veux t'aimer davantage. Encore, si je t'aime, Seigneur, c'est parce que tu m'as aimé en premier. C'est ton amour qui a agi en premier, Seigneur. Mon amour, c'est seulement une réponse, le réflexe même à ton amour. Merci. Juste, j'aimerais qu'on ferme les yeux juste pour une minute et qu'on prenne un temps de réflexion. Posez-vous la question. Votre vie est une vapeur qui va bientôt disparaître. Pourquoi est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que votre vie? Voulez-vous que votre vie compte pour l'éternité? Il faut vivre pour Jésus. Il faut arrêter de mener une vie selon votre propre gré, une petite vie égoïste, mais il faut commencer à vivre pour Jésus comme jamais auparavant. Merci Seigneur. Seigneur, merci que cette parole, que ce message s'enracine dans notre cœur aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc aujourd'hui, ouvrez les yeux, j'aimerais vous poser une question. Parce que je le fais à chaque dimanche, sans exception. Savez-vous, je n'ai pas honte de Jésus-Christ. Parce que sans lui, je suis faite. Combien de vous, vous êtes avec moi? Je n'ai pas honte de confesser son nom. Je n'ai pas honte de dire à tout le monde, je suis chrétien, j'aime Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, peut-être vous êtes là, vous n'avez jamais de votre propre bouche confessé que Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur. Vous dites, mais encore, zéro, grand train, je ne sac pas, je n'ai pas volé la banque, je suis un bon citoyen, je viens à l'église occasionnellement, je lis la Bible, je prie. Tout cela, c'est bon, mais ce n'est pas assez. Si vous n'avez pas Jésus dans le centre de votre vie. Donc aujourd'hui, Jésus il vous invite. Et la Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, savez-vous c'est quoi un Seigneur? Un Seigneur, c'est un maître, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce n'est plus moi qui est en charge, c'est lui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Matthieu chapitre 10, 32-33 dit, c'est Jésus qui parle, « Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question. Avez-vous l'assurance aujourd'hui d'être en règle avec Jésus? Est-ce que Jésus est vraiment au centre de votre vie? Sinon, j'aimerais vous donner l'occasion de venir donner votre cœur à lui. Posez-vous la question. Si vous partez d'ici et votre cœur arrête de battre et vous tombez mort et votre esprit quitte votre corps, où irez-vous? Est-ce que vous allez passer l'éternité au ciel avec Jésus? Si vous dites « j'espère, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûr », aujourd'hui, vous pouvez être sûr. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, le salut, c'est un don gratuit. Je vais compter à trois, taper ma main. Et si vous voulez donner votre cœur à lui, juste lever la main. Je vais vous inviter à prier avec moi pour donner votre cœur à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui veut suivre Jésus-Christ et qui veut donner sa vie à lui? Un, deux, trois, juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? N'aie pas honte, Jésus l'a dit. Si tu me confesses devant les hommes. Quelqu'un a levé la main? Oui? Si c'est le cas, quelqu'un d'autre, juste lève la main. Oh, je veux le voir. Alléluia. Alléluia. Moi, je n'ai pas honte de Jésus. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un? Quelqu'un a pointé, mais je ne l'ai pas vu. Sinon, laisse-moi vous dire, laissez pas passer cette journée sans prendre cette décision. C'est tellement important. Et pour les autres qui sont là, qui ont déjà donné leur vie à Jésus dans le passé, est-ce que vous êtes prêts à prendre une décision aujourd'hui de ne pas être une crucifix sans grand trans, mais d'être un chrétien rempli de l'esprit, marchant par la foi et par l'amour? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire cela avec moi aujourd'hui? Qui veut le faire? Juste lèvons nos mains vers lui. Si vous voulez, priez avec moi. Père Céleste, aujourd'hui, je veux m'approcher de toi. Je veux que ma vie se glorifie. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai vient de toi. Je veux que tu sois le centre de ma vie. Je veux dire avec l'apôtre Paul, Christ est ma vie. Tu ne fais pas partie de ma vie, mais tu es ma vie. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour la foi et merci pour l'amour qui vont faire en sorte que ma vie va compter pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Il vous aime. Je vous aime. Et laisse-moi vous dire, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pouvez prier pour moi aussi? Parce que demain, j'ai besoin de partir et aller voir mon père. Mon père est un jeune homme aussi, il n'a que 67 ans. Mais on va avoir besoin de le mettre dans un foyer pour les personnes âgées la semaine prochaine. Et ça, c'est une chose qui est quand même un peu difficile. Et il ne connaît pas encore le Seigneur. Mais ma prière, c'est que je vais pouvoir arriver et son cœur va être ouvert et qu'il va pouvoir voir avec clarté le message de l'Évangile. Amen. Donc, si vous voulez prier avec moi, moi je ne serai pas là la semaine prochaine. Tania va être ici, par exemple. Moi, je pars juste tout seul pour aller le voir. Mon frère m'a appelé et dit, est-ce que tu peux venir? Parce qu'il passe un temps difficile actuellement. Donc, je vais aller. Tania va être ici la semaine prochaine. Et moi, je vais être en train de prêcher dans une autre église dimanche prochain et mercredi prochain aussi. Je serai dans quelques églises au Missouri entre le temps. Je vais aider avec mon père. Mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent se mettre en accord avec moi que mon père soit sauvé et qu'il vienne au Seigneur? Parce que physiquement et dans le naturel, il ne va pas bien maintenant. Comme je dis, ça c'est le, je l'ai mentionné sans mentionner son nom la semaine passée. Un grand sportif, athlète, un homme du plein air qu'il n'y a pas longtemps, il était en pleine forme. Mais aujourd'hui, il ne peut plus marcher et il ne peut presque plus parler. Et donc, laisse-moi vous dire, il a besoin de Jésus. La vie est une vapeur. Mais moi, je veux que sa vie soit sauvée au nom de Jésus. Amen. Donc, Père, au nom de Jésus, je prie pour mon père, je prie pour Roger Taylor. Et au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, que tu vas ouvrir les yeux de son cœur pour qu'il puisse voir, Seigneur, avec clarté le message de l'Évangile. Je te remercie, Seigneur, que tu vas m'aider, tu vas, Seigneur, envoie les autres ouvriers aussi qui vont croiser son chemin. Et nous te remercions, Père Céleste, pour ta bonté. Et nous te remercions, Père Céleste, Seigneur, pour ta fidélité et ta protection au nom de Jésus. Et Seigneur, qu'on vive tous pour ta gloire, en sachant que notre temps ici sur la terre est limité. Mais Seigneur, que cette vie est glorieuse et merveilleuse quand on vit pour toi, au nom de Jésus. Amen. Je vous aime de tout mon cœur, et même si je ne suis pas là la semaine prochaine physiquement, je serai là dans mon esprit, dans mon cœur, avec vous, et j'espère que vous serez avec moi aussi là-bas. Et ma douce moitié, mon meilleur ami va être ici avec vous autres la semaine prochaine et ça va être merveilleux. N'oubliez pas non plus le tirage le 19 juillet. Soyez présents, amenez des amis. Soyez pas égoïstes. Non. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Amen.